quelque chose qui est tout à fait contrôlé, comme par le passé d'ailleurs, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de mesures dans cette direction-là depuis une vingtaine d'années, pendant ce qu'on appelait la période spéciale qui a suivi la chute de l'Union soviétique. Le pays se trouvait dans les années 90 dans une situation également difficile, et il y a eu un certain nombre d'ouvertures, en particulier envers les investisseurs étrangers, mais toujours contrôlés par l'État ou par les forces armées révolutionnaires de Cuba. Ces processus sont vraiment tout à fait dirigés à la fois par le gouvernement, par le parti et par les forces armées. Donc ce sont des groupes dirigeants qui laissent peu d'initiatives aux initiatives privées. Alors là, il y aura apparemment une certaine libéralisation dans le sens où l'État va se défaire d'un grand nombre d'employés qui travaillaient pour l'État. On a parlé de 500 000 et même de 1 million de postes qui seraient fermés. Et donc ces gens-là devraient se réinsérer dans le secteur de l'économie privée, la petite entreprise ou les services. En particulier, on peut penser aux services pour le tourisme, puisque le tourisme est un des secteurs les plus importants à l'heure actuelle à Cuba.
Alors sur le plan politique, c'est la fin d'une époque. Fidel Castro renonce à tout poste de direction au sein du parti. C'est son frère Raoul qui le remplace. Est-ce que malgré ce changement de façade, on peut dire que c'est la continuité dans le changement ?
C'est la continuité dans le changement, effectivement, parce que bon, on n'a pas présenté de successeur. Donc on attend, disons, une relève, et cette relève, elle n'arrive pas. On pensait il y a quelques années qu'une génération intermédiaire prendrait la relève. En particulier, il y avait le chef du gouvernement à l'époque, Carlos Lache. Il a été écarté du pouvoir. Donc un certain nombre d'hommes plus jeunes ont été écartés du pouvoir, et le cercle dirigeant s'est quand même passablement refermé. Et en particulier, on attend aussi des femmes, puisque par le passé, le parti était quand même dirigé exclusivement, pratiquement par des hommes. On attend aussi peut-être des gens qui viennent des provinces, enfin disons des éléments qui feraient penser qu'il y a quand même une évolution sociale à l'intérieur du parti communiste cubain.
Est-ce que toutes ces réformes, cette ouverture économique est le prélude à la levée de l'embargo américain sur l'île ?
Le gouvernement américain a bien précisé qu'il attendait des preuves plus concrètes d'ouverture de la part de Cuba, en particulier sur le plan des libertés politiques, puisqu'en fait les libertés politiques sont quand même extrêmement ténues à Cuba. Il y a un seul parti, les dissidents notoires sont mis en prison, donc de ce côté-là, les Américains ne vont pas bouger. Simplement, il y a eu quelques mesures d'assouplissement de la part des États-Unis, en particulier, disons, dans les échanges économiques d'une part et les échanges de personnes entre les États-Unis et Cuba. Alors, sur le plan des échanges économiques, il faut savoir qu'une grande partie de l'alimentation, en particulier des produits essentiels, le blé, la farine, le maïs et des produits de base, le lait aussi, viennent des États-Unis. Ces produits sont absolument nécessaires à l'économie cubaine et à la subsistance cubaine. Et sur le plan des échanges de personnes, le gouvernement américain a assoupli les règles, en particulier pour les visites des Cubains pour visiter leur famille à Cuba. Les sommes qui sont aussi remises aux Cubains de l'intérieur ont été révisées. C'est-à-dire qu'avant, c'était des sommes très très limitées. Il y avait 300 dollars comme limite par trimestre, je crois, et 1000 ou 1200 dollars par année. Et maintenant, on va passer, disons, à quelque chose comme 2000 ou 3000 dollars. Donc, en fait, les transferts d'argent à partir des États-Unis vont être plus importants, ce qui va faciliter la vie des familles à Cuba.